J'aurais besoin de deux éléments de clarification assez importants sur deux points. Le premier, c'est les questions de formation professionnelle. Tu as évoqué au détour d'une phrase la crise de l'apprentissage, le fait qu'on n'avait pas boudé. Donc je pense que c'est important pour ceux qui n'ont pas ces histoires en tête de rappeler ce qui s'est passé là. Et par ailleurs, peut-être, de vous donner quelques éléments de compréhension, mais je m'adresse à toutes les personnes qui ont des éléments de connaissance là-dessus dans la salle, sur ce que la réforme de la formation professionnelle est susceptible de changer sur les territoires. Ça, je pense qu'on a besoin de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. En tout cas, moi, j'en ai besoin. Et l'autre question, c'est une question autour de laquelle on tourne un peu entre les interventions de Denis, Étienne, etc. Si vous pouviez nous donner à comprendre sur les questions de fiscalité locale.
Je crois que c'était renvoyé cet après-midi. Oui.
L'état de vos désaccords et vos possibilités de rapprochement, vous amélioreriez ma compréhension de ces enjeux. Voilà.
Donc on peut effectivement effectivement, avant de voir la discussion générale, comme on a un peu d'avance, peut-être essayer de répondre à ces deux questions-là, la forme. Et puis Denis aussi.
Denis, la parité sur la formation, parce que c'est très technique, la formation professionnelle, ce que je peux dire d'un point de vue politique, c'est la... L'UMM est bien organisée, ses centres d'apprentissage, etc., et a dit, bon, nous, on veut, grosso modo, je gérerai directement. La réforme s'est faite en disant, bah, c'est aux branches professionnelles de reprendre un peu la main, ça a un peu exclu les régions, bon, même s'il y avait des correctifs, c'est là dans le détail, dans le derrière la phase d'examen de la loi, en tout cas les régions ont été dépossédées, donc il y a une espèce de reprise sur des acquis de décentralisation, donc les régions ont très mal vécu cette réforme, elles se sont fâchées à telle enseigne qu'elles se sont rapprochées avec la DF, la MF, et ça a donné la crise, le boycott. Directement le boycott, enfin, chacun avait des raisons de mécontentement différentes, mais en tout cas ça a donné le boycott des trois associations, de la dernière conférence nationale des territoires, le rappel de Marseille en septembre, etc. Donc ça a quand même dégradé très fortement les relations entre le gouvernement et les régions. Avec maintenant un sujet donc, extrêmement technique, la formation professionnelle, même si l'enjeu est considérable, c'est de voir comment on fait retomber la réforme. Il y avait une grande crainte aussi des territoires, c'est qu'il y ait une concentration des dispositifs, des centres d'apprentissage, dans uniquement les métropoles, qu'il n'y ait pas de moyens pour les centres qui ne sont pas forcément avec pas beaucoup d'apprentis, mais qui marchent très bien. Donc il y a en effet beaucoup d'interrogations sur cette réforme, et la manière de la conduire aussi. On a une ministre qui n'est pas toujours amicale avec les pouvoirs locaux et les collectivités.
Il faut peut-être. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant de ce que c'est que la réforme de la formation professionnelle.
Maintenant, je demande de venir
un sujet relativement technique et il y a une très grande réorientation là, qui a été engagée hein, en matière de formation professionnelle. Peut-être, Denis, tu peux le résumer hein, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ce sujet qui est crucial.
Oui, alors il y a deux parties hein, dans la réforme, il y a la partie formation professionnelle et la partie apprentissage. Sur la formation professionnels, vous savez que les partenaires sociaux avaient fait un accord national interprofessionnel sur la formation qui a été un peu balayé d'un revers de main par Muriel Pénicaud en disant non, ça va pas du tout, c'est pas assez ambitieux et nous ce qu'on souhaite c'est un big bang de la formation. Alors ça s'est traduit comment? Ça s'est traduit d'une part par l'idée, c'est de donner beaucoup plus la main. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'intermédiaires dans la formation professionnelle, mais l'idée, c'est d'individualiser très fortement le système. C'est-à-dire que chacun va avoir son compte libellé en euros, et vous allez avoir sur un iPhone la possibilité de gérer directement votre appétence sur la formation, c'est-à-dire où vous voulez vous orienter, choisir votre organisme de formation, etc. C'est un pari, hein. C'est un pré-pari.
Ça suppose qu'on ait un iPhone, déjà.
Ça suppose d'avoir l'iPhone. Ça suppose d'avoir l'appétence pour la formation. On dit beaucoup que la formation, c'est un système très inégal, puisqu'en fait, on bénéficie plus ceux qui sont déjà formés et qui ont une appétence pour la formation. Le pari, c'est qu'en individualisant le système, ben, les moins qualifiés vont s'en saisir et se former spontanément. J'ai un petit doute sur le résultat des courses. Hein. C'est-à-dire que je pense que ça ne règle absolument pas les problèmes d'appétence à la formation. Mais bon, on va expérimenter, puis on regardera. L'autre aspect sur la formation professionnelle, c'est qu'on a beaucoup centralisé, étatisé, je dirais, le dispositif. Vous avez la création de France Compétences, qui est un organisme national, public, qui va tout gérer. La Caisse des dépôts reprend toutes les questions de financement, des trucs financiers. Voilà. Et les OPCA paritaires se transforment en OPCO, avec beaucoup moins de pouvoir. Elles ne collectent plus du tout l'argent de la formation, mais elles ont un pouvoir à la fois sur l'apprentissage et sur l'accompagnement des entreprises, des plus petites entreprises, qui ont besoin quand même d'être accompagnées sur la mise en place d'un plan de formation. Voilà, je parle sous le contrôle de Stéphane, qui peut bien sûr intervenir à tout moment. Sur l'apprentissage, quel est le constat, si vous voulez? C'est que, effectivement, ça va être attribué aux régions. Hein, malheureusement, le constat, c'est que l'apprentissage n'a absolument pas décollé. Il a même stagné, voire régressé. Et le constat qui est fait quand on regarde au niveau européen, c'est que les pays où l'apprentissage fonctionne et fonctionne bien, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, c'est des pays où l'apprentissage est piloté par les branches professionnelles. Donc la réforme qui a été faite, c'est de redonner un peu la main aux branches professionnelles, parce que c'est vrai que le passage par la région était quand même assez contraignant. Il fallait s'intégrer dans un plan régional, je ne sais plus comment il s'appelle, non, mais, et donc les ouvertures de centres de formation d'apprenti étaient soumises à la région qui disait oui, non, etc. Le problème, c'est que la région gérait par ailleurs les lycées professionnels, et donc la perspective de voir s'implanter un centre d'apprentis à proximité d'un lycée professionnel, bah, c'était niette, quoi. Et puis, on voulait faire plaisir à tout le monde, donc on crée des centres d'apprentis, de coiffeurs, de machins, etc. Et pas forcément là où les besoins en termes de compétitivité pour l'économie française étaient les plus importants. C'est un peu caricatural, je m'en excuse, mais voilà, il y a un peu de ça. Et maintenant, l'ouverture des centres de formation d'apprentis est beaucoup plus libre, et vous avez beaucoup d'entreprises industrielles, de grandes entreprises industrielles, qui ont l'intention d'en créer. Nous, ça va nous faciliter la tâche en termes d'implantation et de développement des centres de formation d'apprentis, parce qu'il n'y avait pas seulement que les centres de formation d'apprentis. Les sections d'apprentissage à l'intérieur des centres d'apprentis étaient soumises, hein, c'est ça, à l'aval de la région. Hein.
La difficulté, c'est la temporalité. C'est-à-dire que quand il faut un an et demi ou deux ans pour ouvrir une formation, alors qu'il y a un besoin industriel sur des sections, on voit bien que ces temporalités-là ne marchent pas, parce que c'est normal, on est dans un continuum de décisions dans des administrations, dans des secteurs entre région et éducation nationale. Donc là, on espère une accélération, en tout cas, de la réactivité.
Alors, il se trouve que depuis un an, alors je ne mets pas du tout sur le compte de la réforme, ça serait bien sûr ça serait totalement faux, puisque le temps qu'elle se mette en place, etc., et l'apprentissage vaut l'école. Et nous, on a pris des engagements très forts dans la métallurgie. On a dit qu'on voulait augmenter de 50%. On a actuellement 51 000 alternants dans l'industrie, dans la métallurgie. Et on va augmenter de 50% jusqu'en 2023 le nombre d'alternants. Alors, quand je dis alternants, c'est parce qu'il y a l'apprentissage, mais il y a aussi ce qu'on appelle le contrat de professionnalisation, qui concerne notamment les demandeurs d'emploi.
Du côté de l'éducation nationale, on voit aussi des évolutions très fortes, avec notamment les campus de métiers. Qui sont en train d'être créés un peu partout. Quel est votre avis sur ce...
Ben, il serait temps que l'éducation nationale bouge, quoi. Parce que, franchement, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour les convaincre. il y a quand même une réticence de l'éducation nationale à l'apprentissage. Alors, ça bouge plutôt positivement.
Ça bouge.
Ben, tout le monde moi je pense qu'ils vont fleurir avec l'histoire d'industrie et des marchés comme ça. On a vu Jean-Michel Blanquer l'autre jour avec notre président, il est quand même très ouvert sur ces sujets.
Oui, Blanquer.
Non mais bon, il faut aussi que notre pays bouge, parce que sinon c'est désespérant. Hein. Mais en revanche, il faut aller dans ce sens-là et vite. Donc il faut quand même totalement rétablir ce que tu peux parler de l'Allemagne, etc. Bon, est tellement loin, culturellement, de la culture technologiquement, de la place de l'enseignement traditionnel dans la vision de l'éducation, etc. Donc il faut totalement revaloriser, réhabiliter tout ça, montrer là aussi des belles histoires. Sur le plan fiscal...
Moi je propose que la question fiscale, parce que sinon on ne va pas avoir le temps de laisser la parole aux auditeurs. On a du temps, ça m'a dit aussi, donc c'est peut-être une question que
je regarde. Nicolas sera plus là.
Les propositions qu'on va faire, on va faire un passe d'armes, je te rassure. Non, simplement ce que je veux dire, on va se retrouver peut-être avec l'IMM. On discute avec l'IMM et d'autres, c'est fiscalité de production. Il y a un rapport qui circule, etc. On a déjà fait des objections sur la façon ce qu'on appelle la fiscalité de production. Fiscalité de production, on dit en France, c'est fiscalité qui repose sur l'activité. Sur les entreprises avant même qu'elles aient commencé à produire. Bon, on peut prendre cette définition si on veut, je ne sais pas ce que ça vaut. En tout cas, si on la prend, on ne peut pas mettre les impôts que le rapport met dans ce qu'ils mettent la CVAE, qui est un impôt sur la valeur ajoutée, donc il n'y a pas de valeur ajoutée si vous n'avez pas produit. Ils mettent des impôts avec le chiffre d'affaires, et pas le chiffre d'affaires si vous n'avez pas produit. Donc déjà, il y a un problème de sémantique, de définition. Après, il y a, dans cette fiscalité de production, il y a un peu tout et n'importe quoi. Ils mettent le versement transport est payé par les entreprises, mais pas toutes. Il est payé aussi par les administrations, par les associations. Moi, je paye le versement transport en tant qu'association. Donc, il ne faut pas tout mettre non plus. Après, aussi, le rapport est contestable sur le foncier bâti. On ne sait même pas de quoi on parle sur le foncier bâti, parce que enfin, tantôt c'est les ménages, tantôt c'est l'entreprise. Donc, il faudrait qu'on se mette d'accord sur le foncier bâti qui repose sur les entreprises, donc sur les logos professionnels, sur l'activité économique. Première chose. Deuxième chose qu'on considère, bon là je suis un peu dans le détail, macro, hein, ce rapport, ce poids, pour analyser de manière juste, objective, le problème de la fiscalité sur les activités économiques. Et ensuite, dans les activités économiques, c'est là où on fait des propositions, même à produit fiscal constant, on considère qu'il y a besoin de rééquilibrer la charge fiscale entre le secteur abrité et le secteur exposé. C'est un paradoxe en France, on a fait des cadeaux fiscaux, on a 100 milliards de niches fiscales, de dépenses fiscales. Donc il y a 5 points de PIB en dépenses fiscales de toute nature. Sans même parler aujourd'hui des optimisations, du CIR, etc. Mais entre les TVA, taux réduits, hôtellerie, restauration, tout ça pour ne pas mieux rémunérer les gens dans la restauration et se plaindre de parcruter. Enfin bon, on a beaucoup à dire. On a souvent fait des allègements sur les petites boîtes. La CVAE n'est pas payée par les petites boîtes. Il faut avoir un chiffre d'affaires minimum pour payer la CVAE. Donc il y a énormément d'entreprises exonérées. Cotisation minimale de CFE, elle est dérisoire pour beaucoup d'entreprises. Les grands gagnants de la réforme de la taxe professionnelle devaient être les industries. En fait, on a, comme vous voyez, pas de perdants. On avait très peur que ça fasse des perdants dans beaucoup de petites entreprises qui n'avaient plus de fiscalité. Donc, on a fait des tas de dégrèvements parrainiques, je ne sais pas, etc., qui ont finalement profité à des tas d'entreprises qui ne sont pas du tout exposées, qui sont sur du résidentiel pur, qui ne sont pas du tout exposées à la compétition. Donc les propositions que nous allons faire, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas faire le rééquilibrage de la charge fiscale entre les secteurs d'activité exposés, dont l'industrie. Et le seul problème de l'industrie, c'est que structurellement, c'est plus de salariés, plus de chiffre d'affaires que les services aux personnes, etc. Et on a une culture française où on dit les petites entreprises, les PME, on parle souvent des TPE, etc. Et on voit les groupes industriels, et quand on parle de groupes, c'est parfois des ETI ou des grosses PME, elles payent plein pot. Donc elles ont une charge fiscale maximum. Elles payent en effet la CVAE à 1,5, donc au taux maximum de la CVAE. Elles payent le versement transport qui commence à 11 salariés, etc. Donc il y a des biais dans notre fiscalité. Il faudrait revenir à une fiscalité à assiette large, équitable, tenant compte des capacités contributives des entreprises et pour pousser la valeur ajoutée. Sauf qu'aujourd'hui, certains, à la valeur ajoutée, payent 0, alors que d'autres payent 1,5 de leur valeur ajoutée. Donc voilà un peu les propositions constructives que nous présentons. On a une réunion avec le MEDEF, la commission de fiscalité sur ce sujet, on allait parler à... Donc je pense qu'on ne peut pas rêver d'un grand soir et d'un nouvel allègement de 20 milliards d'impositions. C'est vrai que la fiscalité locale est très concernée, puisqu'elle repose sur les entreprises, la cotisation pour celles d'entreprises sur le foncier, qui revient aux intercommunalités, la CVAE qui est attribuée pour le moment aux régions, encore une part aux départements, et aux intercommunalités, marginalement aux communes, donc plusieurs niveaux de perception de la CL. Vous avez le versement transport, vous avez des taxes spécifiques comme la taxe sur les commerces, etc., qui sont parfois attaquées. Donc, si vous voulez, vous avez plus la part de foncier bâti qui repose sur des locaux professionnels. Donc, c'est quand même fiscalité. Dans le rapport sur la fiscalité de production, la fiscalité locale est pas mal dans le viseur des, du monde économique. On ne peut pas uniquement être dans la négative, mais en tout cas, nous, on serait opposés à ce que ce soit à nouveau un allègement sur ceux qui ont déjà massivement profité de la taxe professionnelle. Or, nous sommes souvent avec des organisations patronales, notamment MEDEF, etc., qui veulent des allègements pour ceux qui payent trop, mais qui ne veulent pas que ça soit rééquilibré sur ceux qui ne payent rien du tout. Donc c'est toujours... et là, bon, vu le niveau des dépenses publiques, des finances publiques, etc., nous on dit que la réforme, ça peut être qu'un rééquilibrage de la charge fiscale entre industrie et, le, et les autres secteurs d'activité, les grands gagnants de la réforme des taxes professionnelles ayant été les professions libérales.
Tu veux réagir rapidement, mais rapidement,
ouais,
vraiment qu'on laisse la parole au...
Oui, rapidement. Non, la vraie difficulté qu'a la France, hein, globalement, c'est qu'elle a quand même le taux de dépenses publiques le plus élevé d'Europe et du monde. Et donc, le taux... Non, mais excusez-moi de le dire. C'est vrai qu'ici, c'est pas très populaire de dire ça. Et du coup... Non, mais pour des tas de raisons. Et c'est pas seulement les collectivités locales, le travail de l'État, etc. C'est notre système social aussi qui est...
C'est surtout le système social. État plus collectivité dans le PIB, c'est pareil qu'en 1980.
D'accord. Donc, c'est très difficile. C'est très difficile si on ne s'attaque pas d'une façon ou d'une autre. Alors, le problème, c'est quels arbitrages on fait à optimiser la dépense publique. Ça va être très compliqué, effectivement, de baisser les prélèvements obligatoires, notamment sur les entreprises et l'industrie. La difficulté pour répondre rapidement à Nicolas, je suis moins spécialiste que toi des questions de la fiscalité locale, mais je connais un peu le dossier quand même. On a un taux d'impôt sur les sociétés qui est plus vertueux, puisqu'il ne touche les entreprises que les entreprises qui dégagent des bénéfices. Donc, mais on a un taux d'impôt sur les sociétés qui est plus élevé que la moyenne européenne, nettement plus élevé, et nettement plus élevé que l'Allemagne. On a par ailleurs une fiscalité de production, alors malheureusement elle touche les collectivités locales, mais qui est aussi nettement plus lourde. L'Allemagne a fait le choix de la compétitivité de ses entreprises, et donc elle a une fiscalité de production qui est assez faible. Et la France a, à l'inverse, une fiscalité de production qui est assez lourde. Et même par rapport à la moyenne européenne, on est largement au-dessus. Donc, on a un petit problème, quand même. Et l'idée, Nicolas, qu'on pourrait avantager plutôt les entreprises qui sont dans la concurrence internationale, donc exposées à la concurrence internationale, c'est l'idée, à la limite, qui nous va bien. Le problème, c'est que l'Europe interdit de faire une distinction par secteur d'activité, etc. C'est-à-dire qu'on est obligé, quand on prend une mesure fiscale, d'avoir un caractère universel de la mesure qui est prise. Alors, il y a peut-être des marges de manœuvre.
C'est pas par secteur, c'est par taille.
Oui, c'est par taille.
Bien, ça, c'est un sujet très important. Ça rejoint un peu ce qu'on disait hier sur le... Un lien avec ce que tu disais hier, ce que tu rappelais, c'est-à-dire aussi la préférence française pour le travail peu qualifié. Hein. Oui. Et quand même un très grand sujet aussi, c'est que les allègements fiscaux, le CICE, etc., ils bénéficient principalement, ils sont très orientés. Et un certain nombre d'économistes me rappellent avec beaucoup d'arrogance que c'est la seule solution possible vers les travail peu qualifié, donc les secteurs de services résidentiels qui emploient massivement ce genre de commerce, qui emploient massivement ce genre d'emploi. Alors on a vraiment besoin de favoriser aussi la création de travail qualifié. On va donner la parole à la salle.
Oui. Martine Poirot, donc, je suis DGS du bassin de Pompée, communauté de communes. Sur au fond. Alors, évidemment, fait partie des 20 territoires qui seront 21 à Matignon, territoire d'industrie, situé en Lorraine, quart nord-est de la France, près de la métropole de Nancy, dans le Sillon-Lorrain, enfin, bref, j'ai entendu tout ce que vous avez évoqué ce matin. Nicolas, moi, je suis aussi enchantée de savoir que l'industrie est redevenue un sujet national. C'est un territoire qui a connu donc, dans les crises de la sidérurgie, de l'acier, donc, dans les années 80. On était dans l'époque d'Atarienne, où il y avait effectivement des enjeux de relocalisation d'investisseurs internationalement mobiles. Donc nous, on a bénéficié de certaines locomotives à l'époque grâce finalement à des projets nationaux qui ont permis de reconvertir les sites, de raser les usines, de reverdir les zones d'activité, etc. On a donc bénéficié ces 15-20 dernières années d'une embellie, on a résisté à la crise des années 2000. Et en fait, moi je m'étais dit, il y a quelques années, finalement on est en post-industriel, on est à fond dans le résidentiel, on a plein de nuisances, les industries sont exigeantes, elles créent des nuisances locales, la fiscalité, vous parliez de la réforme de l'ATP, en fait, a complètement aussi remis à plat le lien entre le productif et puis le retour sur investissement des territoires à qui on demande de plus en plus en termes justement de zones d'activité, d'infrastructures de transport, de réseaux de transport en commun, de routes, je dirais de services énormes, de propreté des zones d'activité, sécurité sur les zones d'activité. Donc nous, on travaille au quotidien avec les industriels, mais d'un autre côté, on est des petites entreprises, et quand on raisonne et quand on est gestionnaire d'une boutique comme la mienne, à un moment donné, moi j'ai posé la question à mes élus, est-ce qu'on ne pourrait pas finalement aller plus vers le résidentiel, on est près de Nancy, voilà, on pourrait encore offrir des petites zones d'habitat, plus quand on a vu avec la réforme que la taxe d'habitation, qu'on avait très peu avant, était assez dynamique, sans rien faire, on arrive à avoir une petite recette sympathique. Finalement, il fallait être courageux au niveau politique pour maintenir l'envie d'avoir de l'industrie sur son territoire. D'autant que l'environnement, c'est opposable à l'environnement. Je me souviens des personnes sur notre territoire, coupées, grises, il fallait refaire toute l'urbanisation. Enfin, c'est pas fini, mais on a fait des progrès. Quand les gens ont vu des fumées, même si c'était de la vapeur d'eau, quand il y avait des petites flaques de couleurs à proximité, il y avait des grosses inquiétudes en disant « mais il y a de la pollution, il y a de la pollution ». Il y a une pression là-dessus. Alors que l'industrie devient vertueuse aussi dans son système, on va dire, de traitement de ses process. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas opposer, bon, je parle monsieur, le public et le privé, quand vous dites qu'on n'est pas un auditoire réceptif, c'est faux. Moi, je suis complètement pour l'industrie. Par contre, il faut qu'on se comprenne. Et on fonctionne, moi je gère une structure, je suis publique, je sais gérer aussi les retours sur investissement. Et si on faisait des calculs comptables purs et simples, on ne serait pas dans cette envie et dans ce réenchantement industriel dans des secteurs comme les nôtres. C'était juste pour repréciser ça. Sur le territoire industrie, Nicolas, effectivement, ce n'est pas une question de financement. On a tous réinterpellé nos industriels. Franchement, même au niveau fiscal, hein, ce n'était pas le critère d'implantation non plus, le niveau de fiscalité des industries. C'est plutôt la main-d'œuvre, effectivement, le savoir-faire, le sérieux. Ça peut être aussi une qualité de l'eau. On a eu à nouveau de l'industrie papetière. Donc les critères d'implantation, les infrastructures à proximité, développement en fait international. Donc c'est aussi un atout d'être à proximité de l'Allemagne et du Luxembourg, c'est parfois un inconvénient. Donc en fait, on n'est pas sur des oppositions aussi simples. Donc en fait, l'idée de réinterpeller le développement industriel sur les territoires, c'est fondamental. Tu as rappelé les compétences, les lois qui redonnent aux intercommunalités tout l'environnement d'accueil de l'entreprise. Ça va du gros industriel à la TPE. Ça demande une grosse agilité pour les territoires. Et je trouve que la question, effectivement, de l'image de l'industrie a été rappelée par nos industriels. La vision internationale de simplification, puisque pour eux, quand ils doivent, quand tu as des gens qui sont des pays, des Suédois, ou que tu as des Américains comme nos canettes, hein, Kronberg Can, on produit la canette, et de la bière à proximité, donc c'est pratique. Eux nous disent, mais il faut qu'on explique finalement à nos donneurs d'ordre, mais à nos patrons, comment ne serait-ce que investir, réinvestir, changer une ligne de production très rapidement, sans que la DREAL s'en mêle trop, sans que ça dure, ça doit se faire en un an, deux ans, grand maximum. Donc la temporalité, là on a parlé beaucoup de spatial, mais la temporalité est fondamentale, parce que effectivement, quand on est face aux industriels et qu'on a un problème même de, ne serait-ce que d'une autorisation d'urbanisme, et qu'on nous explique qu'il ne faut pas déroger aux règles, c'est compliqué dans nos systèmes et nos cartons administratifs. Donc la simplification, elle a été rappelée. L'image, effectivement, vis-à-vis des jeunes, des métiers, qui était quand même fondamentale. Après, moi, j'ai un problème sur le foncier. C'est-à-dire que nous, on est sur un territoire contraint. Le recyclage foncier, là, on retrouve la question environnementale. On a des SCOT, enfin, tout ce qui sont dans le métier. On a des schémas qui nous imposent de reconstruire. Alors là, ce n'est pas la ville sur la ville, nous avons nous-mêmes. Mais en même temps, on a des contraintes et des pollutions et des sols qui sont telles, où on a de telles normes de dépollution ou désencombrement, qu'on n'est pas compétitif. On n'est pas à Bordeaux, là j'ai vu que vous tiriez des prix à 15% là, sur les constructions. Nous, c'est beaucoup plus cher, puisqu'on ne peut pas vendre très cher notre terrain pour les industriels qui peuvent être convertis. Donc le modèle, quand même, sur le recyclage foncier est important. Les établissements publics fonciers, on a nous un établissement public foncier historique, Lorrain, qui était un des premiers, aujourd'hui fait quand même du foncier, mais un peu pas assez proactif. Et on a un problème de prix d'achat de départ pour faire des unités foncières qui coûtent beaucoup trop cher. Et tu parlais des opérateurs comme BPI, ou quand on leur pose la question, Bercy ne les autorise pas à faire des prêts quasi à taux nul, comme ça s'est fait sur l'habitat social, pour pouvoir justement, pour des structures comme les nôtres, avoir un prix à minima, étalé, si tu veux, avoir des prêts à 30 ans, pour pouvoir justement soit revendre de l'immobilier, soit revendre du foncier à des prix compétitifs. Voilà, dans tous les cas, belle expérience. Merci à la DCF d'avoir réhabilité cette démarche, entre autres, et au territoire. Deuxième inquiétude, pour finir, je ne vais pas être trop longue, c'est la région. Tu parlais des régions. Gros problème Grand Est, quand même. On ne peut pas dire que Grand Est a été très enchanté de recontractualiser, parce que les régions ont reproduit une schématologie, ce que vous disiez, monsieur, un peu nationale, hein, puisqu'on a beaucoup eu de patrons de régions au niveau techno qui venaient quand même des grands corps de l'État. Donc on a eu des schématologies très descendantes et puis très un peu des carcans, des nouveaux carcans, comme un Stradel, comme un Serre-de-Zir, etc. Ce qui fait que quand on arrive avec territoire d'industrie qui chamboule un peu, venant du gouvernement, les pratiques de l'État, mais que les régions ont reproduit entre temps, on a un petit problème d'ajustement. Donc ce n'est plus des contrats, mais des protocoles. J'ai appris ça. Comment? On va signer des protocoles le 21.
Merci pour ce témoignage, c'est plus un témoignage qu'une question, mais ça représente bien l'ensemble des... On va faire la pause bientôt, prendre quelques questions.
Bref. Si je peux poser une question, mais très concrète, oui. Sur le territoire d'industrie par rapport à la carte que vous nous avez présentée. Vous avez certains territoires qui dépassent les limites des EPCI, en fait. Comment ça va se travailler localement, en fait? Est-ce que... C'est à la discrétion des...
Normalement, la brique de base, c'est de mettre des communautés. Il y a quelques cas comme ça où ils ont pris juste une commune, c'est bon.
Mais c'est des... Non, parce que je regardais, moi, le territoire que je connais, Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez, par exemple, vous voyez le Roannais, Tara-Roanne. Bon, Tara-Roanne, c'est pas le même EPCI, hein, donc...
Oui, alors,
l'idée, c'est d'avoir des...
Ça, c'est un peu les régions... Mais après, les actions concrètes, chacun va les faire à sa façon. Hein. Il y a déjà, entre les 124 et les 126, c'est certain, ils ont scindé les plaques. D'accord. Donc là, c'est une première identification. Après, c'est plus gênant, c'est quand, en effet, ils ont pris quelques communes, d'une seule, c'est plutôt l'exception que la règle, mais ils ont pris parfois que certaines communes d'une intercommunalité. Et là, c'est un peu compliqué. Normalement, l'idée, c'est que l'unité de base, c'était des intercommunalités, ils les ont un peu agrégées au départ. Et il y a des endroits, par exemple, vous avez toute la vallée de la Seine. Les élus ont envie d'y aller ensemble, mais si ça ne marche pas, on fera des
ordres. De île, c'est qui?
C'est État et préfecture de région et région.
Oui, moi je trouve cette initiative formidable, mais cette question de pourquoi ces territoires-là et d'autres, il ne faut pas qu'on perde trop d'énergie à ça, non, parce que ce que tu as pas dit quand même, et ce n'est pas une remise en cause du truc, c'est que c'est le territoire d'industrie, c'est 50% d'emplois industriels en France, hein, il y a quand même 50% qui est ailleurs, et y compris certains territoires comme Besançon, par exemple, qui ont passé la trappe. Puis il y a beaucoup de petites boîtes, c'est pour ça que moi j'étais un peu réservé quand j'ai été auditionné sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de petites boîtes formidables aujourd'hui qui sont vraiment dans la nature. Quoi. Il ne faut surtout pas qu'on rentre encore une fois dans une espèce de logique territoriale fermée. On reprend des questions.
Oui, j'avais une question. Thierry Kahn, le directeur du pôle métropolitain du PNRS. Bonjour Nicolas. Juste une. J'ai bien compris que c'était en construction, un territoire d'industrie. Et que selon les régions, les choses étaient différentes. Et que moi, pour avoir interrogé les DGS des communautés, des EPCI, les métropoles et les communes qui devraient être concernées par ce territoire d'industrie il y a deux jours, ils m'ont dit nous, on est au courant de rien et on n'a aucune info, on ne sait pas. On sait que... Donc je ne sais pas si c'est. Si
ah, il fallait qu'il y ait un breton, là, ça.
Je ne sais pas si c'est
possible. Non, parce que là
il y a sûrement des choses.
C'est la région la plus compliquée en ce moment parce que le président de région veut que ce soit toute la région, que ce soit le territoire industriel.
D'accord, je n'ai pas cet élément-là.
Pour le moment, la Bretagne n'est pas encore en ordre de marche. D'accord. C'est la région, c'est l'exception.
D'accord, donc je comprends mieux. Parce que c'est la première chose. Pour remarque, en tout cas, pour le coup, effectivement, je m'interrogeais sur le pourquoi de. Du peu d'infos et du peu d'implication effectivement de la région, je n'avais pas d'infos. Et l'autre point, c'était sur la question de la gouvernance. Effectivement, on a des territoires, en gros, 3-4 intercommunalités qui sont concernées, et on a l'habitude de travailler plutôt avec 7. Et on a déjà, par exemple, récemment, et donc on est très intéressé par l'idée parce que le lien public-privé nous semble vital. On vient de créer un cluster sur la filière AG qui représente 800 emplois sur notre territoire. De personnel depuis 6 mois, avec une co-gouvernance élus et chefs d'entreprise qui sont les copilotes du dispositif, mais voilà, qui va au-delà des 3-4 intercommunités. Donc, de ce que j'ai entendu, si les élus considèrent qu'ils veulent travailler à l'échelle d'un territoire où ils ont déjà des habitudes de travail, en agrégeant 2 ou 3 autres communautés, c'est possible.
Il y a eu une réunion hier soir, je suis tombé sur le Corée avec un ce matin. Il m'a dit qu'il y avait une réunion hier soir pour une région là pour essayer de débloquer la situation. Eux, ils veulent partir sur toute la région. Bon, après, on peut avoir une philosophie, tout le territoire est territoire industriel. L'idée, c'était quand même d'identifier les territoires avec une forte identité industrielle. Après, moi, je suis d'accord, c'est pas un vocal. Et il faut qu'on a des process, encore une fois, sur ça, si on commence à faire du zonage fiscal, alors là, ça va être la bagarre, tout le monde va avoir rentré
sur le pas.
Donc, justement, ça ne va pas être du zonage. Et puis, ce qui va s'apprendre dans le territoire d'industrie, là, on met l'accent sur ces territoires, on les réévalue, ils s'en sont très fiers. Si vous lisiez la revue de presse de la BQR, on s'est sorti le truc, la fierté des gens dedans, etc. C'était assez sympathique à voir. Après, si d'autres s'y mettent, veulent faire pareil, je pense qu'ils auront la capacité d'aller chercher des outils.
Allez, on prend une dernière question. Oui, Fabien Menu, donc des Tarn-Garonne et ancien directeur de CFA. Donc je voulais revenir sur l'apprentissage. Moi, mon expérience sur les CFA, c'est que j'avais des gamins qui venaient pour faire de l'apprentissage dans des secteurs où les entreprises ne voulaient pas les recevoir. Enfin, je caricature un peu. Hein. Des entreprises qui voulaient recevoir des apprentis dans des secteurs où les apprentis ne voulaient pas venir, et globalement dans des secteurs où parfois les maîtres d'apprentissage avaient des très bons d'un côté et d'autres qui se comportaient plutôt globalement assez mal et de manière assez dure avec les apprentis. Et mon observation générale, c'est que quand on parle d'apprentissage, c'est probablement assez français, c'est globalement mal vu. Et c'est pas un problème ni d'activité ni de niveau social. Globalement, les profs de l'éducation nationale, gauchistes, tout ça, ne veulent pas envoyer, ne veulent pas envoyer leurs enfants dans l'apprentissage. Et j'ai souvenir d'une mémorable interview d'un patron du MEDEF qui était sur France Inter pour défendre l'apprentissage. Et quand on lui a demandé est-ce que vos enfants sont en apprentissage, il a spontanément répondu, il est sorti de ses éléments de langage et il a dit non, les enfants sont brillants, ils n'ont pas de problème. Je pense que c'est notre problème. Du coup, je pense que c'est une très bonne chose de s'inspirer de ce qui se fait dans les pays où l'apprentissage marche. Vous avez dit, en Allemagne, ça marche, et c'est les branches qui pilotent. Donc, il faut qu'en France, ce soit les branches qui pilotent. J'ai juste une question, est-ce qu'une branche professionnelle en Allemagne, c'est vraiment la même chose qu'en France ?
Bonne idée.
Alors, je ne sais pas, je ne vois pas bien la différence, mais...
Je ne sais pas, c'est une vraie question, c'est pas normal. Ce que je sais, c'est que la gouvernance des entreprises est très différente.
Sur les polémiques entre les collectivités, et sur la forme de l'apprentissage et les branches, et que l'UIMM a beaucoup poussé, et ça d'ailleurs, Alexandre Sommo vous l'avait dit, il n'y a que l'UIMM qui est capable, parce qu'il y a une branche organisée. Mais dès qu'on sort, peut-être le bâtiment. Le gros problème, c'est qu'on ne peut pas donner aux branches. Il y a un problème dans la décentralisation de notre pays, ce n'est pas uniquement les collectivités, c'est aussi décentraliser les partenaires sociaux. Comment on a des partenaires sociaux faibles? Ils sont pilotés de manière extrêmement jacobine pour beaucoup, sur la formation professionnelle, etc. Vous voyez même comment a été piloté Action Logement, parce que même quand on dit la défense publique et sociale, il y a aussi toutes les cotisations sociales qui ont été longtemps gérées par les partenaires sociaux dedans. Bon, donc il faut qu'on se parle tous discours de vérité. Donc sur le pilotage du 1% formation qui n'est plus 1%, que le 1% logement, etc., c'est quand même des organismes qui étaient extrêmement verticaux. La faiblesse de nos branches, justement, pour arriver à dialoguer avec la région ou même à l'échelle du bassin d'emploi, on n'a souvent pas grand monde. Alors que c'est un vrai enjeu. Donc nous, on se félicite du partenariat lui-même parce que c'est indiscutablement la fédération la mieux organisée. Mais je pense qu'en Allemagne, il y a des branches professionnelles dans les territoires, les Länder, etc., beaucoup plus structurées qu'on l'a, et c'est un enjeu d'arriver à ce que nos partenaires sociaux se structurent aussi à des échelles méso, régionales et locales.
Il y a un mouvement qui est en train de se passer, qui est autour des OPCO. Je ne sais pas si vous avez repéré, parce que c'est... vous aviez...
Qu'est-ce que c'est, les OPCO?
Les OPCO, c'est les opérateurs de compétences qui sont plus les OPCA. Vous aviez beaucoup d'OPCA, je ne sais plus combien il y en avait. Le gouvernement a poussé à juste titre, et on est parfaitement d'accord avec cette démarche, à dire qu'il n'y aura que 10 OPCO, et donc à pousser toutes les branches professionnelles à se rapprocher. Nous, on avait un OPCA métallurgique, et maintenant, on va faire un seul OPCO inter-industrie, qui va regrouper l'ensemble de l'industrie. Et c'est une démarche un peu volontariste. Malheureusement, qui n'est pas venu du MEDEF, mais qui est venu du gouvernement. Donc, je dis bien que le public, de temps en temps, a du bon. Je n'ai pas vu, parce que je sens bien que j'ai froissé quelques personnes. Mais, et je pense que cette démarche va être très intéressante, parce que elle va. Nous, par exemple, les UMM territoriales, c'est vrai qu'on est importé dans les territoires. On a un fort maillage territorial, vous voyez ici. Mais maintenant, on va ouvrir, ça va être des maisons de l'industrie qui vont être ouvertes à l'ensemble des branches de l'industrie, c'est-à-dire le textile, la plasturgie, la chimie, tout ce qui n'est pas dans la métallurgie. Et donc, on va avoir une représentation dans les territoires de toute l'industrie. Et je pense que le rapprochement va permettre d'avoir une masse critique qui va permettre à terme, qui va d'abord inciter les branches qui étaient éloignées entre elles, parce qu'il y avait des tas de petites fédérations, à travailler entre elles, ensemble, et les pousser à voir, effectivement, à aller vers un maillage territorial, parce qu'elles ont la masse critique qui permettra d'y aller. Donc, il est en train de se passer des choses qui sont quand même importantes. Voilà. Mais je reconnais, on a plutôt tendance, on a beaucoup défendu, je dois dire qu'on a fait... On a beaucoup défendu effectivement l'approche par les branches, mais c'est vrai qu'on a un cas avec le bâtiment un peu particulier en France.
Après, il y a aussi cette difficulté qu'on a déjà évoquée, qui est que les branches, les filières, notre politique industrielle aujourd'hui, elle tend à se structurer par les filières, avec le fameux comité de filières, etc., l'industrie future par filière. Ça pose quand même aussi un problème parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses qui se passent, elles sont vraiment interfilières. Et pas seulement entre le monde manufacturier et le monde des services, comme on disait, mais à l'intérieur même du monde manufacturier, il y a beaucoup de choses. Ça devient quand même sur le fond, quand on regarde ce qui sont vraiment les processus d'innovation réelle, comme on ne se dit absolument pas par les statistiques, là je le revois à 100%, c'est souvent des trucs qu'on a vraiment du mal à mettre dans les cases de préexistantes.
Les filières sont plutôt à l'initiative à la fois du gouvernement et des grandes entreprises industrielles qui résonnent. Effectivement, la plupart de nos adhérents, c'est des PME de la mécanique qui travaillent pour l'aéronautique, pour l'automobile, etc. Et donc, ils ne se retrouvent pas dans le, dans la politique industrielle filière. Voilà.
Oui, oui. Et donc, voilà, c'est pour ça que l'un à l'autre, comme la, je sais pas, la Chrétien Besançon il n'y a pas longtemps, qui est d'ailleurs pas dans les territoires d'industrie, je ne sais pas pourquoi, où vous avez la filière traditionnelle de la. Secteur traditionnel de la micro-technique qui aujourd'hui commence à travailler essentiellement pour le mécanical.
Et il y a des filières qui marchent bien, il y en a une qui marche très bien, c'est l'aéronautique. Par contre, bon, il y a des filières qui ont un nom, mais bon, je ne le dis pas trop fort, mais c'est l'automobile. Ça fonctionne extrêmement moyennement, c'est-à-dire que les grands constructeurs automobiles n'ont pas les efforts qu'il faudrait pour vis-à-vis de l'ensemble de la chaîne de sous-traitement.
Ça, ça me semble très important. Bon, ben, les filières, elles existent maintenant, mais en tout cas, de les dépasser par les approches.
Et l'approche territoriale.
Territoriale, plusieurs échelles, de réseau, etc. C'est absolument nécessaire. Et surtout, le pilotage par les grands groupes, sans vouloir tomber dans le manichéisme. C'est-à-dire que, quand même, il y a un très faible investissement, mais aux grands groupes historiques en France, quoi, il y a quand même. Beaucoup de croissance externe, c'était leur stratégie.
Mais ils font bien quand même ensemble.
L'ouvrage d'Hélicoën, que je vous conseille, sur des projets industriels, c'est assez éloquent. Donc il y a eu quand même un moment donné. Comment peut-être trop
pire.
Oui, peut-être. Mais en tout cas, sur les grands donneurs d'ordre, il y a vraiment un travail avec la médiation des entreprises. Bon, ils ne peuvent pas dire exactement, enfin, je sais très bien dans quel domaine, il y a eu quand même des comportements, même de la prédation de valeur sur la sous-traitance, qui a quand même fragilisé. Juste pour simplement, je n'ai pas répondu à Martine tout à l'heure, enfin, pour compléter ce qu'elle a dit, très important ce qu'elle a dit sur le foncier, les contraintes foncières qu'on va avoir. Il faut qu'on travaille collectivement, d'abord c'est quoi le parc d'activité de demain, y compris ce qui a été dit sur l'esthétique de l'usine du futur, c'est très vrai, moi, je pense qu'en effet il faut travailler aussi l'ergonomie, notamment pour l'acceptabilité, changer l'image de l'usine. C'est pas uniquement des fumées de vapeur d'eau aussi. C'est, hein, moi, j'en vois des usines, j'en vois de temps en temps. L'autre jour, on était à Saint-Omer, chez Goudal, la brasserie, c'est magnifique, c'est un beau bâtiment. Je pense que dans le territoire, ils veulent tous être là. Bon. C'est pas un truc monstrueux. Donc, on a quand même l'esthétique du parc industriel. On a, vous allez entendre sur les autres activités, c'est monstrueux. Même la cohabitation des bois, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas d'équipement, pas de restaurant, il n'y a pas de salaire. Bon, il faut qu'on retravaille tout ça, mais assez vite, requalifier. Trouver des instruments financiers de financement réglementaires, essayer de baisser le coût, parce que le problème, j'ai un vice-président qui siégeait dans la mission de délégation de territoire industrie, c'est qu'au Valais de Seine, Notre-Dame de Grabuchon, c'est une grosse boîte d'Exxon. Pour trouver du foncier, ils sont aussi chers que Rotterdam. Mais la densité, Notre-Dame de Grabuchon, la pays de Rotterdam, on arrive à sortir des fonciers aussi chers que les Néerlandais. Deuxième sujet qui me fait penser aussi, c'est aussi tout ce qui a été dit sur les arbitrages. De plus en plus. Très longtemps, on a fait dans le développement économique local, essayer de prendre du greenfield, l'investissement, l'investisseur qui vient, qui cherche, on va tous au MIPIM. L'argent qu'on dépense pour vendre son territoire en marketing en espérant qu'un investisseur va passer par là. Oh, c'est chouette ici, je vais prendre. Bon, en revanche, ça se fait sur de l'existence, sur le tissu existant, et surtout sur les groupes. Qui arbitre, il y avait une tribune dans les Échos hier, au quotidien, où je mets ma prochaine ligne de production. Donc le deal qu'il faut faire dans les collectivités avec des directeurs d'établissement, quand ils s'ouvrent à la collectivité, parce que parfois ils sont un peu en silo, secret fermé, ils tiennent à distance, mais c'est d'arriver justement à ce qu'ils vendent, eux, leur implantation à la maison mère qui va choisir sa prochaine ligne, etc. Et là, tout ce que dit Martine est fondamental, c'est regardez, c'est clair, là, les compétences sont claires, vous n'aurez qu'un interlocuteur fondamental, on se mettra, on va dérouler le tapis rouge. Fiscalité quand même pas trop élevée, dès une formation qualifiée, si j'amène des cadres, de la culture, etc. C'est ça aujourd'hui le développement sur les groupes nationaux, régionaux, internationaux. C'est où est-ce que demain j'investis, je développe. Et le retour sur l'investissement pour les collectivités, ça c'est notre combat. Je reviens sur ce qu'a dit Martine, est très important. C'est attention à ne pas trop dégrader le lien fiscal, ça il faut qu'on travaille. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même des stratégies locales. Dans les territoires, il y a un arbitrage politique. Il y a les développeurs, mais il y a aussi les. Et attention à ce qu'on ne fasse pas comme disait Gérard Collomb, on abandonne bien de faire des ports pour être plus des marinas.
Sur cette parole, merci Olivier, merci Nicolas, et on se retrouve à tous.